Question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois de la tradition religieuse islamique, de l'islam, de la francité de cette tradition religieuse, de l'islam aussi comme spiritualité, mais aussi comme une religion dont les adeptes citoyens français la vivent pour certains sereinement, pour d'autres avec quelques appréhensions, mais pour aplanir et apaiser ces appréhensions, j'ai plaisir à accueillir Hakim Al-Karaoui. Hakim Al-Karaoui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes normalien, agrégé de géographie. Vous avez conseillé le Premier ministre d'alors, donc c'est Jean-Pierre Raffarin, de 2002 à 2005. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, dans ce climat d'interrogation à tout le moins à propos de l'islam, vous contribuez par un ouvrage intitulé « L'islam, une religion française ». Vous affirmez d'emblée par le titre le caractère national de cette religion. Il est temps de l'affirmer.
Il est temps, mais je crois que le travail de pédagogie... je dirais pas qu'il reste à faire, mais en tout cas, on pourra le faire pendant encore un certain nombre d'années. Et ce travail de pédagogie, il vise plusieurs acteurs. Il vise les responsables politiques, les médias qui ont encore, pour certains, tendance à croire que c'est une religion d'étrangers. Il vise aussi un certain nombre de musulmans qui voudraient expliquer que l'inscription de la citoyenneté dans la territorialité, finalement, ne fait pas sens parce que l'islam serait une religion qui existerait indépendamment de sa temporalité, d'une certaine manière. Et donc, on a plusieurs publics à convaincre. Et puis, on a un dernier qui est quand même assez important, qui rassemble tous ceux qui ont peur de l'islam en France. Et cela s'exprime, ils viennent d'horizons politiques assez variés, de l'extrême droite, évidemment. Mais pas seulement de l'extrême droite, il y a aussi tout un camp qui est contre les religions, et notamment celle qui apparaît comme étant la plus dynamique aujourd'hui, l'islam. Donc, un vrai travail de pédagogie, d'où ce titre. Certains qualifieraient d'un peu provocant. Moi, je crois que l'islam est devenu une religion française. C'est un sujet pour la France et aussi un sujet pour l'islam.
Oui, d'autant plus que pour certains historiographes, dès lors que la puissance coloniale, finalement, dès 1830, et peut-être même avec les années qui ont suivi, la France, sous l'Empire, par la suite est devenue une puissance musulmane. Puissance musulmane du point de vue démographique, mais une puissance qui comptait sur l'échiquier international de par l'importance de ses sujets à ce moment musulmans.
Oui, parce que effectivement, ça date de 1830. Alors l'Algérie les territoires français d'Algérie deviennent des départements vers 1855. Et on peut rappeler un fait qu'on a bien souvent oublié, c'est que après la loi de 1905. La loi de séparation. Il y avait une partie du territoire français qui était donc en Algérie, régie par les lois françaises, avec un statut pour les Algériens qui était un sous-statut, qui a en fait justifié le fait que par un décret de 1907, la séparation ne s'est pas appliquée en Algérie. Et la France a continué à nommer et à salarier les imams en Algérie jusqu'en 1962. Bon, au passage, rappelons quand même sur ce sujet, peut-être qu'on en reparlera, qu'il y a aujourd'hui 10% du territoire métropolitain qui vit sous un régime concordataire, l'Alsace et la Moselle, et qu'il y a dans les TOM, la Guyane par exemple, où on est dans un régime concordataire, puisqu'il y a un évêque de Guyane qui est nommé par l'État, par le préfet, ou Mayotte, qui elle vit sous un régime de loi religieuse. Voilà, donc la République sait être englobante et universelle. Elle sait aussi, en fonction d'un certain nombre de cas particuliers historiques, garder des spécificités pour le meilleur et parfois pour le pire.
Oui. Vous avez tout à fait raison de revenir sur ces choses-là, sur ces points que vous avez bien étudiés dans votre livre. Et vous dites que le juge constitutionnel, pour ces exceptions-là, a déjà statué à titre personnel, je pense qu'il y a lieu encore à y revoir d'un point de vue juridique, mais c'est vous qui connaissez ces choses-là infiniment mieux que moi. Je voudrais vous reposer une question à propos de cette fameuse loi dite de séparation du 9 décembre 1905, qui a eu ce statut dérogatoire dans des départements d'outre-Méditerranée. Mais vous le savez bien, ça a été d'abord pour 10 ans, donc de 1907 à 1917. Mais comme on était en pleine Grande Guerre, on a encore prorogé d'une dizaine d'années, et ce n'est qu'après 1927 que c'est a été reporté sine die, jusqu'à l'indépendance. Et vous trouvez déplorable, anormal, ça pouvait s'expliquer, ces anicroches à la continuité de la loi.
Ah, sur le cas algérien, franchement, je pense que tout ça s'est pas fait à la gloire de la France. Le parti colonial, qui regroupait des gens de droite et de gauche, qui n'était pas un parti, mais qui était, disons, un groupe d'intérêt, ne voulait pas que ce qu'on appelait les musulmans acquièrent une forme d'autonomie interne dans la gestion de leur culte. Sachant qu'il y a eu des revendications, notamment des autonomistes algériens autour de Ben Badis, etc., pour l'application de la loi de 1905. Et donc, comme la volonté d'application était portée par des gens qui étaient non pas indépendantistes, mais autonomistes, le parti colonial s'y est opposé farouchement et a de fait, effectivement, obtenu gain de cause.
Vous avez évoqué Ben Badis, il est venu en délégation requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée. Et comme il a été débouté, il avait écrit dans le Météore, organe central de l'association des oulémas qu'il présidait, maintenant il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, avouez-le, dans un État qui se veut laïque, est quand même un peu cocasse. Alors, votre enquête qui, en réalité, s'inspire et poursuit ce que vous avez initié et dirigé et qui a donné lieu à ce rapport, le rapport Montaigne, donne un panorama général de l'islam et des musulmans en France. Vous tordez le cou à certains chiffres dont on dit qu'ils sont des êtres fragiles, qui disent n'importe quoi sous la torture, mais vous ne les avez pas torturés, mais vous les avez même fait bien parler. Quelle est la réalité du point de vue démographique, de ceux qui se disent ou que se présentent comme musulmans en France?
Alors effectivement, ce livre part du travail que j'avais conduit et réalisé avec l'Institut Montaigne en 2016, qui se fondait donc sur une enquête qui était à la fois démographique, mais j'allais dire idéologique. Pour réfléchir sur comment on organise, comment on améliore l'insertion des musulmans dans la société française, comment aussi on lutte contre le fondamentalisme, je pense qu'il faut mesurer le phénomène. Et une des difficultés à laquelle on doit faire face sur ce sujet, c'est que bien souvent on parle avec de la passion et assez peu avec de la raison. Donc l'intérêt des chiffres, c'est de mettre un peu de raison dans ces débats, en étant forcément prudent, parce que des enquêtes idéologiques ou religieuses, elles sont par définition déclaratives, et on sait qu'elles peuvent varier en fonction des circonstances, etc. Bon. Alors, pour essayer d'avoir les chiffres les plus sérieux possibles, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déjà interrogé 15 000 personnes. 15 000 personnes parce qu'on voulait trouver au minimum 1000 musulmans. On savait pas combien de personnes il allait falloir qu'on interroge. Donc 15 000, en fait, ça nous a donné ce chiffre de 6%. 6% de la population de plus de 15 ans en territoire métropolitain. Un peu plus quand on considère les jeunes. Parce que il y a parmi les différences entre la population entre guillemets musulmane et puis la population majoritaire, c'est que les musulmans sont beaucoup plus jeunes que le reste des Français. Donc 6%. Et ensuite, on leur a demandé deux choses. On leur a demandé leur religion, à tout le monde, aux 15 000 personnes, donc certains ont dit musulmans, et puis on a demandé aussi quelle était la religion des parents. L'objectif était de savoir quel était le nombre de convertis, en tout cas la proportion de convertis, et puis quels étaient ceux qui se disaient sortants de la religion, c'est-à-dire ayant des parents musulmans mais ne se déclarant plus musulmans. Et là, on a eu une des premières surprises de cette enquête, c'est que le nombre de personnes qui se disent sortantes est deux fois plus importante que le nombre de personnes se disant entrantes. Donc les convertis qui n'ont pas de parents musulmans qui se disent musulmans, deux fois moins important que ceux qui ne se disent plus musulmans qui avaient des parents musulmans. Donc ça nous donne déjà deux éléments. La structure par âge de la population, donc beaucoup plus jeune que la population française. 6% au total de la population, mais 10% des moins de 25 ans. Et puis, beaucoup de personnes qui sortent de la religion, deux fois plus que ceux qui n'y rentrent, puisqu'on avait 15% du total de ceux qui ont des parents musulmans nous disaient « je ne suis plus musulman ». Et les convertis représentaient la moitié de ces 15%. Troisième caractéristique qui ressortait de l'enquête, très intéressante, la sociologie. La sociologie, on perçoit les musulmans comme étant finalement les enfants de l'image que l'on a de leurs parents. Je dis bien de l'image que l'on a de leurs parents, c'est-à-dire des enfants d'ouvriers, analphabètes, venus du Maghreb pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. La réalité aujourd'hui est, je ne dirais pas tout autre, mais très différenciée, parce qu'on a un tiers des musulmans, donc l'ensemble des musulmans, qui sont Bac plus 2. À l'intérieur de ce tiers, on a 10% qui sont Bac plus 5, donc on voit que l'ascenseur social a fonctionné pour eux. Et puis, de l'autre côté, on a, je ne sais plus quel est le chiffre exact, je crois, 15 ou 18% des gens qui sont hors de l'emploi. Hors de l'emploi, ça veut dire qu'ils ne sont pas en recherche d'emploi. Et dans ces populations-là, il y a deux grands types de personnes. Il y a les femmes au foyer. Et puis, ça d'une certaine manière, c'est attendu. Et puis, et ça c'est plus inquiétant, il y a un nombre très important de jeunes qui sont sortis sans qualification de l'école et qui ne sont pas dans la recherche de l'emploi. Donc on a des gens qui sont à l'extérieur de la société.
C'est à l'évocation de ceux qui sont hors de l'emploi que je pense à cette étude que vous avez si bien menée avec 6 jeunes citoyens français, Dove et Esther, Michel et Nathalie, Samira et Mohamed. Et vous, selon le genre et selon aussi la consonance, comme on dit maintenant, et selon le prénom, vous trouvez que le premier entretien par rapport au nombre d'envois de leur curriculum vitae n'est pas le même selon les prénoms. Et ce caractère discriminant, au sens premier du terme, vous le mettez en avant dans votre étude à la fois sociologique et sociographique des musulmans de France.
Oui. Alors là, vous faites référence à une autre enquête de l'Institut Montaigne qui avait été coordonnée par Marianne Valfort, qui était une enquête, qui était ce qu'on appelle un testing religieux. Le dispositif expérimental était le suivant. 6 CV, des 3 hommes, 3 femmes, le même nom de famille, le même CV. Seule différence, c'était le prénom. Le prénom et éventuellement des activités associatives qui pouvaient renvoyer à une appartenance religieuse, puisque c'était des gens qui avaient été formés au Liban. Et ce qui ressortait effectivement, c'était que à CV équivalent et activité associative équivalente, quand vous aviez un prénom musulman, vous aviez 4 fois moins de chances d'avoir un entretien que quand vous aviez un prénom chrétien. Au passage d'ailleurs, quand vous aviez un prénom juif, vous aviez 2 fois moins de chances d'avoir un entretien qu'un prénom chrétien. Donc la discrimination concerne tout le monde. Et l'autre élément qui était très frappant dans cette enquête, c'était que d'abord les filles, les femmes, souffraient moins de discrimination. Et ça, je vais y revenir, c'est parce que la société française les considère en fait comme étant
des victimes.
Sous-entendu, les garçons sont des bros. Et puis l'autre chose, c'était l'autre élément très frappant, c'était que quand vous aviez un CV exceptionnel, en fait, vous souffriez plus de discrimination que quand il était commun. L'interprétation qui en était faite, c'est que vous aviez probablement plus de caractère. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que si vous êtes musulman, que par ailleurs vous êtes actif dans des associations, les associations dont on parlait, c'était les scouts musulmans de France. Bon, il se trouve que pour ceux qui connaissent les scouts musulmans de France, du Chir Bentounes, on a des scouts qui sont insérés d'ailleurs dans la galaxie mondiale des scouts, et qui sont, on ne peut plus insérer dans le système républicain, actifs, militants, et d'ailleurs souvent pris en exemple, et d'ailleurs financés par la Fondation de l'Islam de France. Bon, je laisse de côté cet exemple, mais pour vous montrer à quel point l'image du référentiel musulman est dégradée, et du coup a des conséquences sociales majeures, parce que, dans une autre enquête, celle de l'INED, Théo, Trajectoire et Origine, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'un tiers des enfants d'immigrés, là il ne s'agit pas de musulmans mais d'enfants d'immigrés, un tiers dit souffrir d'un déni de francité. Et donc, si la société vous dit que vous n'êtes pas vraiment français, et si par ailleurs vous avez bien conscience que vous n'êtes plus de votre pays d'origine, quand bien même voilà, la question de votre identité se pose. Et à ce moment-là, on a des entrepreneurs religieux qui viennent et qui vous disent « mais la réponse est évidente, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas algérien, marocain, sénégalais, tunisien, que sais-je, mais vous êtes musulman ». Et vous êtes musulman, c'est une identité universelle, sauf que vous allez être musulman d'une façon un petit peu différente de la façon dont vos parents l'étaient. Pourquoi ? Parce que vos parents ont été humiliés. Regardez dans quel état vous êtes, regardez dans quel état ils vivent. Regardez la promesse républicaine et puis la réalité de la vie quotidienne. Et donc, votre islam va être un islam différent de celui de vos parents. Vous allez être néo-islamisé. Et vous allez être néo-islamisé avec un discours à la fois orthodoxe et politique. Et là, on rentre dans la question, dans une des causes, c'est pas la seule, mais une des causes de la diffusion de l'islamisme aujourd'hui en France.
Alors, vous évoquez cette appartenance à la Oumma, dont vous dites que la racine même du mot renvoie à la mer, donc cette matrie. La matrie n'est pas comme la patrie a un lien avec la terre, et alors que la matrie transcende ces clivages géographiques et les frontières qui, pour certains, sont artificielles. Pourtant, je pose la question, c'est que les citoyens peuvent avoir, pourraient avoir une appartenance sociale et politique et une morale et spirituelle. Les citoyens français catholiques ont une appartenance sociale et politique à la nation, morale et spirituelle à l'Église. Pourraient certains dire que les musulmans de France ont une appartenance, doivent avoir l'appartenance à la nation? Elle est sociale et politique, et pour la communauté des croyants, la matrie, elle est morale et spirituelle. L'ennui, vous le soulignez, c'est que cette réislamisation de ces néophytes se fait avec un discours venant de la part de doctrinaires sermonnaires qui les mobilisent. Et c'est une des explications donc de l'islamisme. Bon, j'ai été frappé par les différentes déclinaisons que vous donnez de l'islamisme. L'islamisme est un individualisme, l'islamisme est modernité. Tout de suite une question. Vous pensez que l'islamisme est une forme de modernité ? Pour certains, ce n'est pas oxymorique ?
Non, je crois vraiment. Enfin, c'est une forme de modernité. C'est le produit de la modernité. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'islamisme, avant même le 19e siècle, les réactions orthodoxes chez les théoriciens musulmans, chez les jurisconsultes, etc., sont souvent nés d'une rencontre avec l'altérité. Les Mongols, par exemple, du temps de Ibn Tamir. Si on prend l'islamisme contemporain, le point de départ, c'est Napoléon. C'est l'expédition d'Égypte. C'est la reconnaissance chez certains intellectuels du fait que la tradition les avait menés dans une impasse. Et ça, c'est le scandale pour eux de la différence de modernité entre les armées de Napoléon et puis la réalité de l'Égypte au début du 19e siècle. C'est aussi de grands modernisateurs politiques. En Égypte, Mohamed Ali. En Tunisie, il y en a eu un certain nombre. Et puis, des intellectuels qui ont essayé de penser la relation à la modernité en disant d'un côté, la tradition n'est pas la solution, puisque la tradition nous empêche d'accéder à la modernité. La modernité était vue d'abord comme la technologie. L'Occident n'est pas la solution non plus, parce que l'Occident, c'est l'Occident, et nous sommes ce que nous sommes. Et du coup, l'islam peut porter une forme de solution d'ouverture vers la modernité. Il y a eu un débat sur lequel je ne reviendrai pas, qui a finalement conduit à la transformation d'un discours de l'islah, de la réforme, de la nahda, qui était ouvert vers un discours qui était fermé. Puisque à partir du moment où la religion a été perçue comme étant la seule réponse, il a fallu aller vers la réponse la plus pure, la plus séparée, la plus traditionnaliste, voire traditionniste.
On a su, par ce discours islamiste finalement, mobiliser, prendre en charge même les aspirations, aussi spirituelles, mais aussi existentielles. Vous avez même parlé, me semble-t-il, je le dis de mémoire, d'une sorte de désarroi ontologique. Donc ça renvoie à l'être, à l'identité de toute cette jeunesse, finalement laissée pour compte. Nous avons connu un ancien Premier ministre qui a dit « il ne faut surtout pas expliquer parce que expliquer, c'est déjà excuser ». Là, nous sommes dans l'analyse. L'analyse n'est pas une excuse. Et donc, l'approche sociologique est un des points de cette... Allez, le mot est devenu un mot épouvantail, un mot valise, la radicalisation.
Oui, l'approche sociologique, mais il faut aller au bout de l'approche sociologique. Parce que effectivement, il y a des difficultés sociales. Effectivement, il y a une offre idéologique qui a été conçue depuis aujourd'hui près de deux siècles, enfin, disons, dont le point de départ, ou le nouveau point de départ date d'il y a deux siècles, et avec une conceptualisation qui, elle, date d'il y a un siècle. En gros, tout se joue dans les années 1925, hein, entre Rachid Rida d'un côté et Hassan El-Banna de l'autre. Et puis, dans la sociologie, il y a un autre phénomène. Et c'est pour ça que je dis que l'islamisme est le produit de la modernité. C'est aussi pour ça que je le dis. C'est la transformation incroyable, je dis bien incroyable, la modernisation incroyable des sociétés arabes. Pas seulement arabes, mais prenons les sociétés arabes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans ? Le statut de la femme a été complètement bouleversé. Pas forcément en droit, mais dans les faits. Bon, les femmes avaient, jusque dans les années 50-60, partout dans le monde arabe, puis il y a eu évidemment des différences suivant les pays, 5 enfants. 5 enfants par femme, 5-6 enfants par femme en moyenne. Bon, ce qui voulait dire que quelques femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc la moyenne par femme qui avait elle-même effectivement des enfants était encore supérieure. L'accès à l'enseignement primaire était très limité. L'âge moyen au mariage était très bas, 17 ans, 18 ans. Et puis, le statut social de la femme en général était pas forcément très bas, parce que, vu d'Europe, on a tendance à penser que les femmes arabes, les femmes musulmanes sont discriminées. Non, il y a une répartition des rôles, et je dirais même des pouvoirs au sein de la famille, qui est très subtile. Et quand on connaît un peu les familles arabes, on sait que les femmes sont en général pas forcément discriminées. Par contre, elles ont un rôle social.
Et la mère était une commanderesse dans la maisonnée.
Voilà. Donc il y a une répartition des rôles dans l'espace public, dans l'espace privé, avec une répartition sociale très claire. Bon. Aujourd'hui, où on en est ? On en est à une situation qui est totalement différente. D'abord, la transition démographique a fait son œuvre. Le pays le plus avancé, c'est la Tunisie. Mais maintenant, les pays du Golfe, à part l'Arabie Saoudite, ont rejoint la Tunisie. Donc, on est sous 2 enfants par femme. On a, à l'université, dans la plupart des pays arabes, plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire aujourd'hui que les filles sont plus éduquées que leurs pères. Et demain, que les femmes vont être plus éduquées que leurs maris. L'âge moyen au mariage a considérablement reculé, puisqu'il est plutôt de 27 ans. Il est très légèrement inférieur à celui qu'on connaît en Europe occidentale. Et donc, quel est le grand mouvement, la grande dynamique à l'œuvre aujourd'hui dans le monde arabe ? Ce n'est pas l'arriération, c'est la modernisation. Et les femmes sont en train de tout bousculer sur leur passage. Et d'une certaine manière, on peut interpréter l'islamisme, en tout cas le succès de l'islamisme, comme une réponse politique des hommes à la transformation sociale causée par les femmes. Et c'est pas un hasard, évidemment, si l'emblème de ce combat, c'est le voile.
Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam comme une religion française, et c'est une religion française. Hakim El-Karaoui est normalien, agrégé de géographie, conseiller du chef du gouvernement, du Premier ministre, et tout particulièrement Jean-Pierre Raffarin pendant 3 ans, de 2002 à 2005. Et aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage paru chez Gallimard dans la collection Le Débat, dont le titre, encore une fois, est « L'islam, une religion française ». Hakim El-Karaoui, vous avez évoqué donc ce marqueur identitaire, en réalité il y en a deux, il y a aussi la halalisation des esprits, ce marché qui a émergé, pour parler comme Florence Bergeau-Blaclair, depuis 2 décennies, peut-être un peu plus. Comment, dans votre analyse, percevez-vous donc l'émergence du voile qui a suscité tant de polémiques et de focalisations. Alors c'est un épiphénomène en réalité, ça ne l'est plus peut-être, c'est à vous de nous le dire. Et puis le fait de consommer halal au-delà d'ailleurs de la nourriture.
Ces deux marqueurs, les marqueurs au sens presque géographique du terme, quand on fait des études de géologie et de qu'on étudie le karst notamment, on cherche les résurgences. Les petites rivières comme ça qui coulent sous les montagnes. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On met du colorant. Ça, on sait où ça commence et puis après on les retrouve très loin. Le halal et le voile, c'est un petit peu ça en fait. Ça permet de tracer l'influence idéologique islamiste. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses politiques. Bon, le voile, il existe depuis très longtemps, mais il a changé de forme et il a changé de nature. Le voile était un voile traditionnel, plutôt d'ailleurs des campagnes, avec d'ailleurs des façons de nouer le voile qui étaient différentes suivant les pays, suivant les régions, suivant la signification sociale. Et puis, mais ça, ça date de la révolution iranienne, le voile est devenu un marqueur politique et d'ailleurs devenu beaucoup plus rigoureux. La révolution iranienne qui a été suivie d'une contre-révolution en Arabie Saoudite.
Vous dites à juste raison que l'année 1979 est une année charnière à mains égards.
Ah oui, il y a trois événements majeurs, la révolution iranienne, la tentative de prise de contrôle de la Mecque pendant le pèlerinage, et puis l'invasion des soviétiques de l'Afghanistan, qui va donner derrière une contre-réaction djihadiste financée par les Américains, on connaît l'histoire d'Al-Qaïda, etc. Ce qu'on voit, c'est que dans l'enquête qu'on a faite, on a posé la question du voile et du halal. Et puis, plus profondément, à travers un certain nombre de questions, on a fait une typologie des musulmans de France. Et on a, un peu comme sur le plan social, une situation très différenciée. Parce qu'on a d'abord les 15% de ceux qui sont sortants, 40% qui ont un système de valeurs. Alors on peut contester l'idée même de système de valeurs, on peut contester l'idée même qu'il y a un système de valeurs républicain, mais enfin bon, moi je le prends à mon compte, et ce que je vois, c'est qu'il y a une insertion dans ce système de valeurs. Ce qui ne veut pas dire une sécularisation, parce que ce qui est très frappant aussi, c'est que l'ensemble des musulmans pratiquent beaucoup plus que, par exemple, les catholiques, infiniment plus, plutôt à 2/3, 70% de pratiques quotidiennes, alors que les catholiques, on est à 5%. On a, je vous dis, une grosse moitié, plus qu'une grosse moitié qui est dans cette insertion paisible. On a un quart des gens qui sont d'ailleurs souvent des immigrés de première génération qui se distinguent par des valeurs très conservatrices, puisqu'on a posé des questions sur la religion, mais aussi sur la relation entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement des garçons et des filles, sur l'héritage, sur l'éducation, etc. Enfin bon, des marqueurs culturels qu'on connaît bien quand on connaît les populations qui viennent du monde arabe, de Turquie et d'Afrique subsaharienne, qui constituent 95% des musulmans. Et puis, donc, très conservatrice, mais pas forcément en rupture. Et puis, on a un autre quart. Le chiffre était 28%, c'est évidemment pas un chiffre fétiche, il y a une marge d'erreur. Mais un autre quart qui est beaucoup plus jeune que le reste des échantillons, qui réunit la moitié des moins de 25 ans que l'on a interrogés, et qui, eux, se caractérisent par à la fois une ignorance de la religion très grande, poser quelques questions techniques, disons, et puis une capacité à utiliser la religion pour manifester une forme de rébellion face aux institutions, face aux normes, face aux valeurs de la société française, qui est particulièrement inquiétante. Un chiffre qui illustre, je pense, au-delà de cette typologie, l'ignorance, pour être précis, poser la question, est-ce que le halal est un des cinq piliers de l'islam? 40% des gens nous disent oui. Bon. Alors, quand on connaît un tout petit peu le dogme, on sait que tout ça est évidemment totalement faux. Donc, on ne peut que s'interroger sur la signification politique du halal. On a 80% des familles qui veulent des repas de substitution halal à la cantine. On a, je crois, 70% qui n'achètent que de la viande halal. Et puis on a effectivement, vous l'avez dit, bien au-delà de la viande, de la façon dont elle est sacrifiée, un mode de vie qui s'est installé. Le halal voulant dire étant l'opposition du haram. Et donc halal, et vivre halal, veut dire vivre comme un bon musulman.
D'une manière licite et permise.
Voilà. Avec l'idée qu'on est dans une société occidentale qui soumet à des tentations et dont il faut se protéger, se méfier. Pour certains, se séparer. Et le halal est la forme de cette séparation. Le voile, c'est d'une certaine manière la même chose. Pourquoi le voile est si mal accepté en France? Et pourquoi il est si mal accepté en France et finalement très bien toléré dans les pays anglo-saxons? Parce que la signification politique n'a pas le même sens. La France a un système d'intégration qui est violent. Moi, je pense que la France assimile. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne crois pas que ce soit une politique publique au sens où certains vont dire « moi je suis pour l'intégration, moi je suis pour le multiculturalisme, moi je suis pour l'assimilation ». Je pense que c'est la société qui fabrique ça. Ça vient de très loin. C'est la philosophie des Lumières, c'est l'homme universel. C'est l'Église catholique, unique par rapport aux églises protestantes si diverses. C'est derrière la longue histoire de l'Empire romain et la façon dont l'Empire romain savait utiliser, malaxer presque, assimiler des populations. Et du coup, le voile, c'est quoi? C'est perçu en France comme étant un double symbole. Un symbole de soumission de la femme. Si les hommes étaient voilés, ça pose un moins de problème. Un symbole aussi de séparation. Soumission, séparation. Soumission, ça veut dire inégalité. Les Français croient en l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'ils la pratiquent, mais ils croient en l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, séparation, ça veut dire on ne veut pas être complètement dans votre chez vous, dans votre groupe. On ne veut pas en faire partie. D'ailleurs, on se protège. Et ce que ça remet en cause, je pense, quand on se met du point de vue français, c'est...
Non musulman,
voilà. C'est, d'une certaine manière, le projet global républicain. Nous allons faire de vous des citoyens libres et égaux en droit. Avec une petite incise qui est rarement précisée, libres et égaux en droit, c'est-à-dire comme les Français. Donc l'universalité a une frontière quand même. La frontière, c'est la façon dont les Français se représentent l'humanité. Et c'est vrai qu'ils se la représentent d'une certaine manière à leur image. Mais cette promesse, elle n'est pas. Les gens disent, elle n'est pas tenue. Regardez les quartiers populaires, etc. Moi, je regarde d'autres éléments. Je regarde les mariages mixtes. Et notamment les mariages mixtes des femmes musulmanes, qui sont à 20-25%. C'est pas très facile d'avoir des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attraction du modèle français permet de sortir, là pour le coup, d'un interdit religieux, mais surtout culturel, de l'exogamie. Vous allez vous marier hors de votre groupe, hors de votre religion, ce qui pose dans les familles toujours des problèmes, toujours des déchirures, mais avec une capacité finalement d'exécution qui est extraordinaire. Je compare, j'étais sur la côte est aux États-Unis il y a quelques mois pour un ensemble de conférences. J'ai été interpellé par notamment une professeure à Harvard, qui me dit « mais la France maltraite ses musulmans, elle les oppresse ». Je lui dis « oui, d'une certaine manière, c'est vrai ». Elle les oppresse, mais en même temps, elle leur dit « vous avez la capacité d'être des Français comme les autres ». Et vous pourrez d'ailleurs, c'est le sens de la laïcité, vous pourrez croire ou ne pas croire librement.
Et pouvoir changer de religion.
Et pouvoir changer de religion. Mais regardez le cas des États-Unis. Les Noirs et les Blancs vivent aux États-Unis depuis 350 ans. Je ne parle même pas des Indiens ou des Américains natifs, comme on dit. Jusqu'à il y a 10-15 ans, le taux de mariage mixte était de 5%. Donc, le pays du melting pot a su mélanger, intégrer, assimiler le monde entier, sauf les Noirs. Les Noirs, il y a toujours une séparation. On connaît le cas des quartiers, 3 familles noires, 5 familles noires, 10 familles noires, les Blancs qui partent. La France, c'est pas ça. La France, au bout de 40 ans, on est à 25% de mariage mixte, des femmes. Donc, il y a une attraction du modèle universel. Il existe, il est toujours là. Mais il faut bien le comprendre. D'un côté, il est très violent parce que il casse, d'une certaine manière, le système culturel familial, et notamment celui du Maghreb, où il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, mesurée par la règle de l'héritage, et où également, il y a un système qui est fondé sur la solidarité entre les frères. Emmanuel Todd a bien montré tout ça. Ce système-là ne tient plus dans la France contemporaine. L'inégalité entre les hommes et les femmes, ça ne marche pas. Et la solidarité entre les frères, en fait, ça ne marche plus, déjà pour des raisons démographiques. Parce que quand vous n'avez plus que 2 enfants, il y a une famille sur 3 où il n'y a pas de frères. 2 familles sur 3, pardon, où il n'y a pas de frères. Donc, on est dans un système qui est très violent, très déstructurant, ce qui, à mon avis, explique aussi la surdélinquance. l'absence, on parlait de l'absence des femmes de l'espace public. Mais ce qui est très frappant aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est l'absence des hommes de l'espace privé et l'absence d'autorité. On voit ces enfants, ces adolescents qui partent à la dérive. Et on se dit, mais où est l'autorité ? L'autorité, elle a été cassée parce que le système traditionnel, familial, explose en fait. Et il y a un moment très compliqué qui est celui, d'une certaine manière, dans lequel on vit, où un nouveau système d'autorité n'est pas encore constitué, où l'ancien a explosé. Et là, c'est toujours pareil. Arrive une norme religieuse, une norme politique qui vient prendre en main les adolescents. C'était, il y a quelques décennies, le tablir. Aujourd'hui, c'est les salafistes.
Le tablir étant un mouvement un peu piétiste et qui faisait de l'entrisme. Oui, et aujourd'hui, ce sont les salafistes.
Ce sont les salafistes qui viennent avec une organisation, d'ailleurs, très décentralisée. Il n'y a pas de complot salafiste, ça n'existe pas. Mais un système de discours, une prise en main des consciences, un soutien et d'une certaine manière, ils évitent la fatigue de penser. Et pour des gens qui sont en perte de repères, jeunes ou moins jeunes, de tradition musulmane ou convertis, puisque les salafistes ont beaucoup de succès chez les convertis, ça donne une forme de confort. Bon.
Il y a l'excès de zèle du nouveau prosélyte, parce que le prosélyte est celui qui gagnait une cause et non pas celui qui en fait et qui en fait la propagande chez les puristes. Hakim Al-Karawi, à juste raison, vous avez parlé de cette fixation maladive sur la norme, l'obsession de la norme, cette captation des consciences. Et comment se fait-il que vous avez expliqué à cette professeure à Harvard que la France n'opprime pas tant ces musulmans qu'elle le prétend, alors que ce qui est perçu de la part de la frange islamique de la nation, c'est plutôt ceci, en même moment que leurs compatriotes perçoivent l'élément islamique comme un élément halogène, incongru, intrus, adventice, étranger. Et votre ouvrage prouve plutôt le contraire.
On est dans un moment de transition. Ce moment, il a commencé il y a 30 ans. Pas avant, parce que avant, en fait, la grande phase de l'immigration commence en 55. Il y avait des immigrés musulmans, je laisse de côté les colonies, depuis les années 20, depuis les années 30, sur le territoire métropolitain. Mais la grande phase correspond d'ailleurs au début de la guerre d'Algérie. Les premiers migrants musulmans en France, en métropole, étaient des Algériens. Bon, elle a duré de 1955 à 1975, et puis après, il y a eu le regroupement familial, etc. Les flux ont baissé, mais ils sont quand même restés relativement importants. Mais pendant très longtemps, notamment la génération de mes parents, de mon père, la question n'était pas celle de l'intégration. La question, c'était celle de la vie comme étranger. Et d'ailleurs, les États d'origine ne considéraient pas que leurs émigrés allaient rester chez eux. Alors, ils avaient une vision d'eux qui était plus ou moins positive. L'Algérie, par exemple, a longtemps eu un discours assez critique sur les émigrés, notamment en France. La vérité, c'est que ça arrangeait beaucoup de ces États qui aient une fuite démographique, tout simplement parce que la pression chez eux était plus faible, même si, on l'oublie souvent, ce sont souvent les meilleurs qui partent, en tout cas ceux qui ont la volonté la plus forte. Et puis la question de l'insertion dans la société française, donc, a commencé à se poser dans les années 80. Il y a une date qui est ce qu'on a appelé la marche des beurs, qui est en fait la marche pour l'égalité, qui date de 82, qui a commencé
du 15 octobre au 3 décembre 1983.
Pardon, 83, pardon. Qui a commencé dans un contexte très violent où, en fait, les jeunes disaient « arrêtez de nous assassiner ». Parce qu'il y avait eu plusieurs meurtres, et d'ailleurs, dans certains cas, c'était les forces de l'ordre qui étaient
Et les mots d'ordre étaient « on ne peut plus laïque », il n'y avait pas de discours religieux à ce moment-là.
La religion n'existait pas, et la revendication finale, finalement, ça a été des papiers, et c'est comme ça qu'est née la carte de 10 ans. Un peu par hasard, d'ailleurs, si j'en crois les témoignages des uns et des autres, puisque les marcheurs ont été reçus par le président de la République, et la question, c'était comment on symbolise le fait qu'on a envie de les entendre. 10 ans après, j'ai revu récemment le film de Mathieu Kassovitz, La haine. La haine, donc, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque c'était le malaise des banlieues. La haine, je crois, date de 1994. Il y a deux choses qui sont très frappantes quand on regarde le film aujourd'hui. C'est que, c'est un groupe de copains, ils sont trois. Et ils sont évidemment archétypiques. Il y a un maghrébin. Il l'appelle l'arabe. Il y a un Africain subsaharien. Il l'appelle le noir. Et puis, il y a un juif. Et ils sont ensemble. Et puis, en fait, le film raconte leur désœuvrement, une nuit passée à Paris, séparation entre la banlieue et Paris. Et puis, ça finit par un drame, puisqu'il y a un des trois protagonistes qui est tué, plus ou moins par accident, par un policier. Aujourd'hui, ce film-là serait impossible. Pourquoi ? Parce que le groupe de trois, il ne pourrait pas y avoir de juifs. Ça, c'est impossible. C'est devenu impossible. L'antisémitisme est devenu tellement important que la mixité religieuse,
interconfessionnelle,
est devenue impossible. Et puis la deuxième chose qui est très frappante quand on le voit le film aujourd'hui, c'est que le référentiel musulman n'apparaît à aucun moment. À aucun moment. Aujourd'hui, il serait partout. Vous voyez donc des dynamiques très, très, très nouvelles et la question de l'intégration qui a commencé à se poser dans les années 80, qui s'est transformé et qui aujourd'hui est devenu, d'une certaine manière, la question de la place de l'islam.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'auteur du livre paru chez Gallimard dans la collection Le Débat, Hakim Al-Karaoui. Le titre de l'ouvrage est L'Islam, une religion française. Son auteur est normalien, agrégé de géographie, conseiller du Premier ministre, notamment dans le cabinet dirigé par Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005. Hakim Al-Karaoui, vous avez encore d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Et là, vous participez, vous contribuez à la réflexion et même à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la restructuration. Encore un mot à propos de l'islam en France, de France, l'islam français, l'islam gallican. On est à la recherche d'un bon vocabulaire. Votre étude à la fois sociologique et j'ajoute sociographique, du grec graphein, une description à côté de l'étude, vous ont mené à faire quelques suggestions et à avoir des idées. Alors, c'est quoi cette affaire de restructuration de l'islam de France ?
Il faut partir déjà, je pense, des problèmes. Bon. Diagnostic, il laisse entrevoir un certain nombre de réalité. D'une certaine manière, d'un côté, il y a des choses qui sont très enthousiasmantes. Et je pense que c'est très important de les rappeler, parce que le discours public, médiatique, politique sur l'échec du modèle français d'intégration, sur le problème de l'islam, etc., est en large partie est faux, puisqu'il y a plein de choses qui vont bien. Bon, il faut rappeler qu'il y a des choses qui vont bien. Il faut aussi mettre le doigt sur les problèmes, et pas, j'allais dire, se voiler la face, c'est de circonstances. Le problème, c'est quoi ? C'est la montée du fondamentalisme, et notamment chez les jeunes. Et le deuxième problème, qui explique en partie celui-là, à mon avis, c'est finalement le fait que le champ musulman, le champ religieux, a été laissé presque en intégralité, presque en intégralité, vous êtes un de ceux qui luttent contre ça, aux islamistes, aux discours orthodoxes, aux discours fondamentalistes. Et je pense que les deux sujets vont ensemble, c'est-à-dire que on ne réussira pas à lutter contre le fondamentalisme si, d'une certaine manière, les musulmans, les autres, ne participent pas. C'est pas l'État qui, tout seul, va dire, du haut de sa grandeur laïque, va dire « avec moi, on va faire reculer le fondamentalisme ». Non, l'État a un rôle de sécurité. L'État a un rôle de neutralité et l'État doit permettre aux citoyens de vivre leur religion dans la paix. Voilà. Religion ou pas. Bon. Et donc, moi, ce que je propose, c'est essayer de partir de cette réalité, donc de ces deux difficultés, en reconnaissant que l'organisation institutionnelle à l'œuvre aujourd'hui a échoué, le Conseil français du culte musulman, créé maintenant il y a un peu plus de 15 ans par Nicolas Sarkozy, ce qui d'ailleurs montre qu'il y a un problème, puisque un conseil religieux créé par un ministre de l'Intérieur dans une république laïque, ça montre l'innocuité du sujet.
Vous évoquez aussi la proto-histoire de ce conseil,
qui remonte à Pierre Joxe, qui d'ailleurs avait commencé avec une méthode assez différente, puisque lui avait réuni d'abord des personnalités françaises, confession musulmane. Et puis finalement, c'est Charles Pasqua qui, en 93, au moment des événements algériens, avait dit, probablement en lien avec les autorités algériennes, en tout cas les services algériens, que la religion pouvait être un outil de contrôle et de sécurité, et que de ce point de vue-là, il fallait qu'il y ait un partenariat entre les États. Ce partenariat a été élargi au Maroc, et puis finalement aujourd'hui à la Turquie. Et surtout, ce partenariat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué absolument le système, puisqu'on a importé le conflit algéro-marocain. Et puis, on a aussi, et ça, on l'a trop souvent négligé, on a créé des petites baronnies financières avec des gens qui vivent très bien du business du halal, du prix payé par le pèlerinage qui est beaucoup trop élevé, qui ne correspond pas à un prix de marché. Il faut le dire, même si c'est désagréable, des dons, les dons manuels. Alors, soit la zakat, soit le don à la sortie de
l'office. La zakat étant l'aumône légale, comme on dit, le troisième pilier de la pratique culturelle islamique.
Voilà, mais beaucoup d'argent en liquide qui circule, et presque pas de mosquées régies par la loi de 1905, qui doivent publier leurs comptes, et donc énormément d'opacité financière. Donc, de l'opacité financière, des problèmes de blocage politique, et puis enfin une organisation qui, en fait, n'a jamais vu le jour. Le budget du CFCM, c'est 30 000 euros. Ça montre bien quelle est sa force, quelle est la réalité de son implication.
Son site internet est le 28e visité en France.
Voilà, et je crois d'ailleurs même qu'il a été fermé, alors même que le combat est sur internet. Ce qui ne remet pas en cause la qualité des hommes, c'est le système qui ne marche pas. Donc moi, je propose à ce stade de laisser le CFCM, mais de créer une association culturelle qui serait en charge d'une certaine manière du temporel, et qui aurait pour fonction de centraliser les flux financiers, les dons, avec une charte éthique de fonctionnement, le professionnalisme, la transparence, un certain nombre de principes de reconnaissance de principes sur la place de l'islam dans la République, fondés et organisés par des personnalités neutres. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire non inféodés au pays d'origine, et ça veut dire non liés au business, aux activités commerciales ou financières liées à l'islam. Pourquoi faire ça? Parce que je crois que les fidèles et les consommateurs ont le droit à la transparence. Ils ont le droit au professionnalisme et ils ont le droit aussi qu'on les prenne au sérieux. Ce que je crois, c'est qu'on est arrivé au moment de l'émancipation. L'émancipation des musulmans de la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'émancipation des musulmans de France de la tutelle des pays d'origine. Il y a une nouvelle génération qui n'est pas forcément d'ailleurs une génération d'âge, mais il y a, je crois, une prise de conscience, et cette prise de conscience a été accélérée par les attentats, que la situation actuelle n'était plus tenable. Elle n'est plus tenable pour la pratique juste et paisible de l'islam en France, elle n'est plus tenable pour le grand public qui regarde les musulmans et qui leur disent, pas forcément avec violence ou haine, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, chez vous, dans votre culte, dans votre religion? Et je pense qu'il faut accélérer cette prise de conscience et que pour ça, il faut un support. Il faut un support de mobilisation.
Alors nous arrivons, nous nous approchons du terme de l'émission. Deux questions, si vous voulez bien, Hakim Al-Karaoui. La première nous lie à ce que nous disions au début de notre entretien, de cette exception au sein du corpus juridique de la République, le système concordataire. Pourquoi est-ce que le concordat apparaît comme une exception dans la France laïque, qui elle-même apparaît comme une sorte d'exception en Europe, et l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception? Donc c'est un peu cette situation un peu particulière dont je voulais vous poser une question. Et la seconde, c'est elle est liée plus ou moins à la formation des imams, encore une question classique.
Donc là, vous parlez du concordat d'Alsace-Moselle.
Oui, des trois départements concordataires sur le sol métropolitain.
Alors, là-dessus, il faut faire un petit rappel historique. D'où ça vient? Ça vient de la guerre de 1870. l'Alsace-Moselle est devenue allemande en 1870, au moment de la défaite. Et quand elle est redevenue française en 1918, la loi 1905 était passée par là. Qu'est-ce qui s'est passé en 1918? En fait, les Alsaciens ont demandé à garder leur système concordataire. Pour différentes raisons politiques, on leur a accordé. Et après, et c'est ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel deux fois, la Constitution de la 4e République et la Constitution de la 5e République n'ont pas aboli le système concordataire d'Alsace-Moselle. Et puis, par ailleurs, ce concordat est une exception à la Constitution, et les exceptions n'ont pas vocation à s'étendre, elles ont vocation à se réduire. Ce point est important parce qu'on a posé la question de pourquoi est-ce que l'islam ne serait pas dans le concordat d'Alsace-Moselle? Après tout, on voit bien que ça réglerait quand même quelques problèmes. Ça permettrait de créer une faculté de théologie, ça permettrait de former des imams, ça permettrait de les salarier en Alsace-Moselle et d'une certaine manière de constituer un stock de personnel religieux, de ministres du culte, formés dans un cadre de qualité. Alors pourquoi l'islam n'est pas dans le concordat d'Alsace-Moselle? Pour une raison très simple, c'est qu'en 1870, il n'y avait pas de musulmans, ou en tout cas on n'avait pas considéré qu'il y avait des musulmans sur le territoire métropolitain. Pour moi, ça pose quand même un petit problème, puisqu'il y avait des départements l'Algérie où il y avait des musulmans, il y avait un statut en Algérie des musulmans, et d'une certaine manière, c'est reconnaître que le sous-statut des musulmans algériens était finalement légitime. Dans le livre, je propose qu'on ouvre le concordat d'Alsace-Moselle à l'islam parce que, d'une certaine manière, il y aurait une signification symbolique importante d'inscription dans l'ensemble des cultes reconnus par la République, même si le terme de reconnaissance n'est pas exact sur le plan juridique, sachant que dans le concordat, je le rappelle, il y a les deux cultes réformés, calviniste et luthérien, le catholicisme et le judaïsme. Et puis, je vous dis, surtout, ça permettrait de régler un certain nombre de questions pratiques. Mais, si le gouvernement ne le faisait pas, je pense que ce ne serait pas une catastrophe. Parce que aujourd'hui, finalement, la question essentielle, c'est la question de l'argent. La question essentielle, la question matérielle essentielle. Après, il y a des questions religieuses, théologiques, idéologiques essentielles, évidemment. Et aujourd'hui, il y a des flux financiers qui sont suffisamment importants pour qu'on trouve un financement endogène. Et d'une certaine manière, on a de moins en moins besoin de l'État. Donc, je crois, et c'est vraiment très important, je pense qu'on peut faire des choses sur ce sujet-là.
Le discours incantatoire ne règle rien, le discours imprécatoire ne fait jamais avancer les choses, donc vous le dites d'une manière apaisée. Merci Hakim Al-Karaoui, merci infiniment d'être venu nous entretenir de l'islam comme et en tant qu'une religion française. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. C'était l'émission Questions d'Islam. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bruno Mourlan et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب بالهمس 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 بالأرض
بنظراتي بنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس 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 بالآهاتي بنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس 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 بالآهاتي بالنظراتي باللفتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقول هانت أقول خانت أقول هانت أقول خانت أقولها لو قلتها واش في غني لي ويلتي يا ويلتي لا لا لن أقول أنا فقولي تخجلي لا تفزعي مني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا 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 تفزعي مني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا 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 تفزعي مني فلست بسائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته لا 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 تكذبي لا تكذبي لا تكذبي كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون ولقد برئت من الهوى ومن الجنون كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون ولقد برئت من الهوى ومن الجنون.